France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Elena Schwartz, je suis née à Lugano en 1985 et je suis chef d'orchestre.
Dans votre parcours, Elena Schwartz, on sent que peut-être c'était de toute façon votre envie, votre désir, mais quelqu'un comme Matthias Pinscher qui a toujours fait se conjuguer les œuvres du répertoire et puis les œuvres d'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous tient à cœur que de conjuguer véritablement toutes les périodes, de ne pas vous enfermer. Alors la musique ancienne, pas tellement j'ai l'impression, mais en tout cas, sinon vraiment de faire aussi bien le grand répertoire que la musique d'aujourd'hui. Il y a quelqu'un, je pense, dont on n'a pas encore parlé et qui est pourtant important, qui est Arturo Tamayo.
Tout à fait. Je suis très heureuse que vous parliez de lui parce que c'était une influence importante pour moi et c'est quelqu'un qui reste très proche. C'était mon professeur à Lugano parce qu'il donne à Lugano une des seules formations que je connaisse au Conservatoire de la Suisse italienne de direction de ensemble, enfin de musique contemporaine. Et évidemment, il a une très longue expérience qui commence par l'époque où il était à Freiburg et par toutes les créations qu'il a pu faire. Et donc, il y enseigne ce répertoire-là, alors d'une manière ponctuelle dans l'année. J'ai suivi son cours pendant 2 ans. Et aussi, c'est quelqu'un qui continue d'être très généreux avec moi puisque je peux l'appeler à tout moment pour demander son avis, son conseil aussi. Il a une connaissance encyclopédique de la musique des dernières 60, 70 années maintenant. Et donc, c'est quelqu'un qui sort, ah, mais il y avait cette pièce de Klaus Huber qu'on a joué qu'une fois, c'était dommage, on l'a mise de côté. C'est-à-dire, et c'est quelqu'un de très généreux avec ces connaissances-là. Et lui, c'est aussi quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé de pouvoir continuer à conjuguer cette musique d'aujourd'hui et cette passion pour la création avec le travail sur musique d'autres époques pour les faire dialoguer.
Cette confrontation au compositeur vivant, Elena Schwartz, est-ce que elle ne rend pas plus indulgent par rapport au rapport qu'on peut avoir avec le compositeur mort?
En tout cas, je peux vous confier que pour moi, cette situation de répétition où on est en ensemble ou en orchestre et en tant que chef, on a le compositeur ou la compositrice dans la salle. Et elle était très formatrice pour moi. J'ai l'impression que c'est un dialogue parce qu'évidemment, il y a des exigences de la part du compositeur. Et moi, j'ai très souvent cherché le feedback en direct et beaucoup le dialogue aussi autour de l'œuvre. Et on sent bien que ce n'est pas blanc ou noir. Après, ça varie aussi énormément en fonction des tempéraments. Mais il y a toujours une part d'ouverture, puisque même pour eux, avec tout le travail de préparation, si c'est une création, c'est aussi une découverte. Et même si c'est une reprise, on regarde pas, on n'écoute pas avec les mêmes oreilles, parce qu'il y a d'autres choses qui se sont passées entre deux. Et parce que on propose, en tant que chef, mais aussi l'ensemble, l'orchestre, de nouvelles idées. Ça a été ma voix, en tout cas, celle-là, de regarder la musique du passé par celle d'aujourd'hui. Et je pense on peut maintenant avec le Urtext se poser la question, passer des nuits à parler avec ses collègues et à ne pas être d'accord sur des questions de phrasé ou nouvelle édition qui remet en cause une articulation à un moment donné. Et puis très souvent, on va regarder les notes de l'éditeur et on se rend compte que en fait, chaque matériel, il avait d'autres indications. Et donc, on peut peut-être croire au fait qu'il y a une version mère. Je crois qu'en tant qu'interprète, on doit se construire ça. Mais en même temps, j'ai l'impression, vous avez raison, il n'y a pas une version qui mette d'accord tout le monde. C'est une question de recherche continue. Et certainement que ce n'était pas fixé à l'époque. Et c'est ça, en ça que c'est vivant. On a beaucoup de chance aujourd'hui d'avoir toutes ces différentes versions, d'avoir tous ces gens qui se penchent sur la musique d'autres époques pour nous nourrir notre réflexion et nous poser des questions, nous aider à nous poser des questions. Et après, on cherche à y répondre et la réponse dans quelques années après aura évolué, forcément.
Travail d'écoute d'autres versions, c'est quelque chose que l'on fait ou finalement pas du tout? Voilà, vous vous retrouvez à interpréter une symphonie de Bruckner. Bon, il y en a des milliards d'interprétations de cette même symphonie de Bruckner. Vous en faites quoi? Vous en faites rien, vous écoutez rien, vous vous servez uniquement de souvenirs et vous allez sur la partition ou vous êtes intéressé par certaines visions?
Je veux dire, dès le moment où on a entendu une œuvre en concert, on n'a plus les oreilles fraîches, c'est la réalité. Après, on peut faire un travail pour essayer de reconstruire en quoi cette version était marquante ou a pu nous influencer, mais pour des chefs-d'œuvre, souvent, on a le passif aussi avec lequel on arrive. Mais en ce qui me concerne, c'est toujours important de donner un temps de recul. Il y a un moment pour moi pour les écoutes et il y a un moment pour les laisser de côté pour justement ne pas trop se faire influencer. J'aime beaucoup lorsque j'arrive à m'organiser correctement. En ce moment, il y a des projets qui tombent, il y a des répertoires qui changent, c'est pas toujours possible, mais d'avoir un moment dans lequel, presque comme en agriculture, je laisse, en jachère, et je laisse l'œuvre un peu vivre comme ça, quelque part, je la laisse de côté et je la reprends. L'œuvre continue de vivre en nous, je crois, lorsqu'on la travaille pas.
J'aimerais bien qu'on se pose à Aix-en-Provence un peu, été 2019, et qu'on évoque ce beau projet des Mille Endormis. C'est donc un opéra d'Adam Maor sur un livret de Yonatan Levy. C'est un opéra en hébreu, ce qui est quand même pas très courant, une langue que vous parlez, mais qui à entendre comme ça chanter était très frappante. Et c'est une écriture, et j'aimerais que vous nous en parliez, qui est extrêmement palimpseste, nourrie de multiples influences. Mm-hmm. Vous avez participé à tout. Le procédé dramaturgique, c'était le Festival d'Aix, encore sous la direction de Bernard Foucroul. Quelle particularité ça revêt pour vous d'avoir pu vivre chaque instant de cette création musicale, dramaturgique, puis scénique?
C'est une œuvre qui a un effectif particulier. Il a des cordes qui sont tellement importantes, enfin qui nous viennent en Europe depuis l'Orient. Et donc, il évoque l'ensemble classique arabe, aussi avec une partie de la percussion. Mais aussi, il y a l'accordéon. C'est tellement Est d'Europe, musique juive. Et avec la clarinette. Clarinettiste qui jouait aussi cet instrument, le hargoul. C'est un vrai apport de la part de, de ce musicien-là, Marcel, de l'ensemble Luciline, qui joue par ailleurs cet instrument, est passionné de toute l'histoire de la clarinette, et donc il y en avait des exemplaires chez lui. Alors il y avait beaucoup de racines de cette musique. Et ayant été là tout le long, j'ai vraiment pu, comme en partie, il ne s'agit pas du tout de ma culture, suivre les inspirations, voir comment petit à petit, elles sont rentrées dans un discours qui est quand même, lui, vraiment contemporain. C'était un moment privilégié. Ce serait tellement fantastique que tous les processus de composition, de création se passent de la même manière qu'on a pu faire pour ça. Et peut-être, voilà, en ce moment, je le vis autrement avec la composition d'Ayana So pour le projet de Carmen, qui n'a pas encore un endroit où ça va se produire. C'est encore une aventure qui est à ses débuts, mais cette possibilité de faire partie d'une équipe depuis le début est, voilà, est toujours un moment important pour moi. Et par là même aussi, cette possibilité de découvrir d'autres musiques par le biais de compositeurs qui conjuguent peut-être une tradition dont ils sont issus qui n'est pas celle classique européenne avec la musique de création contemporaine.
Il y a une compositrice aussi que vous aimez défendre, qui est la compositrice polonaise, Elżbieta Sikora.
Tout à fait. J'ai eu cette rencontre, et c'est passé par l'introduction de la part de l'Orchestre Padeloup, qui m'a proposé de créer une œuvre. Il crée une œuvre, en plus, par miniature, un peu au cours de la saison. Et donc, on s'est rencontrés pour 3 minutes de musique avec Elżbieta. Mais nous sommes restés proches, et je trouve qu'elle a une pensée tout à fait unique. Et en plus, c'est quelqu'un de très généreux. C'est une magnifique personne.
Si on en revient à la création contemporaine dans les femmes.
Oui, j'adore la musique de Olga Neuwirth. Elle a un style complètement personnel et énormément de courage de proposer quelque chose de unique avec ses influences du jazz, du rock, du punk plutôt. On a pu jouer 2 œuvres très belles au Festival de Lucerne il y a quelques années et j'aimerais toujours pouvoir refaire un concert avec ses œuvres. Je trouve sa musique magnifique et peut-être, je sais pas si c'est si souvent joué en France, mais en tout cas, ça mériterait de l'être plus. Je pense que le public pourrait être séduit par cette musique-là.
Et il y avait aussi les ensembles auxquels vous avez participé. Vous avez évoqué musique fabrique. Et il y a aussi des festivals très contemporains qui sont, j'imagine, Elena Schwarz, l'occasion aussi de découvrir beaucoup de compositeurs auxquels on n'a pas forcément accès. Il y a toujours ce côté pépinière aussi dans les festivals. Si je pense à Voix Nouvelle à Royaumont, par exemple, qui est tout proche de nous, et puis
oui,
un peu plus loin, à Mixture à Barcelone, par exemple.
Oui, comme je vous racontais pour les concours, lorsqu'on se retrouve entre collègues, chacun est en train de faire sa petite carrière à droite à gauche, chercher ses opportunités. D'un coup, on trouve 20 chefs d'orchestre dans la même pièce. Ça n'arrive pas si souvent. C'est toujours un moment assez joyeux, enfin, globalement. Et de la même manière, lors des festivals de musique contemporaine, on se retrouve entre collègues. On peut écouter ce que les uns et les autres font. J'ai souvent aussi pu suivre des activités à Tel Aviv via ce festival Tzlit Moutkan de l'ensemble Nickel. Et il y a toujours une atmosphère, je trouve, en particulier avec la musique contemporaine, comme c'est un petit milieu un peu familial, qui est très sympa. Mais j'apprécie aussi les conversations qu'on peut avoir avec les programmateurs. Là, je pense notamment, par exemple, avec une connaissance encyclopédique de la musique contemporaine, c'est Harry Vogt qui travaille, programme la saison contemporaine de la VDR à Cologne, dans laquelle j'ai pu participer la saison dernière. On était en train de discuter de programme et de pouvoir dire, il m'envoie une liste de 10 personnes en train de chercher une pièce pour orchestre à cordes et je connais seulement la moitié des compositeurs sur cette liste. Quelle chose magnifique de pouvoir passer un après-midi à se dire on découvre des nouvelles pièces et voilà. Pourtant, c'est 5 compositeurs qui valent absolument la peine. Et je vous fais un exemple. Récemment, par son conseil, j'ai découvert la musique de cette compositrice, Anna Maria Avram, qui est décédée trop tôt, mais qui était quelqu'un d'une créativité incroyable. Et voilà, je dois admettre, je ne connaissais pas son œuvre. Et c'était une magnifique découverte. Donc, on peut avoir comme ça des fenêtres qui s'ouvrent sur des mondes, à la fois par les festivals ou les conversations. Et je pense que c'est jamais fini, ça. On peut que se réjouir de la prochaine découverte.
Sur le processus de la création, quand il y a par exemple de l'électronique, quand il y a des choses inentendues et qu'on se retrouve face à une partition dont une partie ne peut même pas être imaginée, en fait, comment on se projette, comment on construit dans tout ce travail à la table qui est préalable à la rencontre avec les musiciens?
Vous avez tout à fait raison. Il y a quelque chose dans la notation de la partie électronique lorsqu'on a soit une bande ou une électronique en temps réel qui n'est pas tout à fait codifiée. Il y a des compositeurs qui montrent des choses dans la partition. Il y en a qui le font pas. À l'époque, lorsque j'étais étudiante, j'ai essayé de prendre quelques cours avec Eric Dobres à la Haute École de Musique à Genève de logiciels dont Max MSP. Les compositeurs qui nous écoutent, ils savent tout à fait ce dont il s'agit. C'est un outil de travail magnifique. En même temps, c'est ardu. Et lorsqu'on veut pas soi-même créer, c'est un grand investissement. Donc, je vous avoue, à un bout d'un moment, j'ai renoncé. Très souvent, ce que j'ai pu faire avec des compositeurs, des compositrices, j'ai pu leur demander de montrer un peu sur quoi ils étaient en train de travailler. Si c'est une bande, c'est assez facile parce qu'on peut nous envoyer ça, on peut avoir une idée. Si c'est de l'électronique en temps réel, c'est un plus grand challenge. Et je pense qu'on n'a pas fini d'apprendre en tant qu'interprète comment dialoguer avec ça. C'est toujours intéressant de savoir sur quels paramètres les compositeurs sont en train de travailler, en quoi on peut influencer cela en direct. Et donc c'est un peu du cas par cas. Et personnellement, j'aime beaucoup pouvoir travailler aussi avec l'équipe son, comme on a pu avoir par exemple sur Les Mille Endormis avec une équipe de l'IRCAM. C'est toujours magnifique parce qu'il y a une écoute autre et cette électronique, elle peut vraiment transporter le public aussi. Ouais, elle a un pouvoir aussi très très fort, je trouve, d'impact sur le public.
Il y a une question qui est au cœur quand même de la pratique de direction, qui est la question de l'autorité. On n'a pas encore évoqué cette question d'autorité. Question de responsabilité, comment vous la voyez?
Le mot autorité, il est très chargé, je trouve. Et c'est en plus un mot qui est peut-être un mot un peu chaud dans la société dans laquelle on vit, parce qu'on en parle beaucoup et on la questionne aussi beaucoup. Est-ce qu'il faut, on regarde en ce moment aussi au niveau politique, des gens qui incarnent une autorité très old school, on vient de voir un très grand changement aux États-Unis pour ça, hein. Et des personnes qui incarnent une autorité plus dans le dialogue, et je pense que ces notions-là, elles sont assez directement traduites lorsqu'on parle des chefs d'orchestre. En plus, il y a une question d'âge, en plus, il y a une question de genre. Et donc, c'est un thème compliqué. À titre personnel, je me concentre sur les idées où j'essaye de me dire que à la fin de tout, quand on arrive, on est jeune, on a évidemment, il faut convaincre plus, mais on convainc par ses idées, pas pour une question d'autorité abstraite. Il faut qu'on arrive avec ses idées et il faut qu'on y croit. Lorsque on arrive avec des idées et aussi on est ouvert, je trouve, aux idées des autres, aux propositions, ben c'est là que se fait la synergie.
Vous évoquiez plus loin dans cet entretien votre admiration quand vous étiez jeune pour l'univers de la musique russe et pour cette espèce de notion de combat aussi et d'être sensible à cette période-là en se disant qu'il y avait un vrai défi aussi à faire que la musique puisse être créée. C'était pas le cas des Mille Endormis, de ce défi de la création. Simplement, là où je fais un lien, c'est avec ce rôle à jouer dans la société d'une œuvre. Les Mille Endormis avaient ça, portaient ça, portaient une forme de satire. C'est quelque chose d'important pour vous ?
Oui, c'était tellement émouvant dans cette œuvre, Les Mille Endormis, parce que le Festival d'Aix porte toujours ce travail tellement riche dans sa région. On a pu avoir une occasion particulièrement émouvante en répétition, où il y a eu des personnes invitées de différentes communautés présentes sur le territoire, donc qui voyaient évidemment la situation, puisque le sujet de l'opéra est bien sûr la situation entre Israël et Palestine au Moyen-Orient, qui vivaient cette situation de par leurs racines familiales ou culturelles d'une manière très différente. Et pour avoir fait partie de l'équipe qui a créé l'œuvre, il y a eu beaucoup de questions qui se sont posées sur comment ça allait être reçu. Parce que, évidemment, c'était compositeur et metteur en scène israélien, avec certaines positions politiques, ayant, pour la part d'Adam Maor, été objecteur de conscience. Donc, évidemment, ça représente quelque chose dans ce pays. Mais représentant qu'une partie et n'ayant pas voulu s'exprimer à la place de l'autre. Mais je sais que de leur part, ils attendaient et en même temps, ils redoutaient cette rencontre. Et on a pu avoir une discussion tellement merveilleuse qui est organisée par le Festival de Aix avec des personnes qui disaient « Moi, je suis rentrée dans cette histoire par cette mélodie qui m'a ressemblé à celle que j'entends chez moi ou de la musique classique arabe que j'écoute. » Et puis d'un autre côté, quelqu'un qui était très sensible à l'aspect politique. C'était quelque part, concrètement, quelque chose qui nous a montré la force de la musique et de l'art. De ne pas seulement présenter une situation qui est très difficile aussi, mais par le biais d'une histoire fantastique, par le biais du poétique, de toucher beaucoup de personnes et peut-être d'ouvrir un espace de dialogue.
Le chant écrit par Adam Maor à la fin de son opéra Les Mille Endormis. C'est ainsi que se termine cette série avec Elena Schwartz, équipe de réalisation Christine Amado, Sébastien Royer, Cédric Chatelus et Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.